Bonjour à tous. Je vous invite à prier ensemble. Abba Père bien-aimé, merci pour ta parole. Ta parole est donnée pour nous instruire. Père, aujourd'hui, vraiment, je te prie d'ouvrir notre cœur, dispose notre esprit pour que nous soyons vraiment attentifs au message de cet après-midi, Seigneur. Que même moi qui parle et les frères et sœurs qui écoutent, Seigneur, nous puissions vraiment être réconfortés, encouragés, exhortés ou soulagés par ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Alors, j'ai choisi le psaume 32 pour partager avec vous aujourd'hui. J'ai une question à vous poser. Dans la vie de chaque jour, il y a plusieurs mots que nous prononçons assez souvent. Quels sont ces mots? Bonjour. Au revoir. Merci. Pardon? Plus fort. Pardon. Voilà, pardon. Mais quand on dit pardon, est-ce qu'on y pense vraiment, pardon? Alors, c'est pour ça, aujourd'hui, je vais vous partager le pardon dans la Bible. Le pardon dans la Bible, c'est quelque chose de très profond. C'est pas comme ce qu'on prononce chaque jour. Nous allons voir ensemble les différents états esprits de David avant la confession de son péché. Le 2, c'est après la confession du péché. Et 3, nous voyons ensemble le pardon entre les hommes. Voyons d'abord le premier. Voilà. Comment David se sent avant sa confession? Dans le psaume 32 que David nous a lu tout à l'heure, David se rend compte qu'il a fait une faute, il a péché, mais sa première réaction, c'est de dire « Oh, c'est pas grave, Seigneur ». Il essaye de négliger la faute, essaye de refouler ou carrément ne pas y penser. Cependant, il décrit comment il ressent quand il est dans la négation sa faute. Voilà, il dit « Tant que je taisais ma faute, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi, le jour et la nuit, ta main s'appesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe qui se dessèche lors des ardeurs de l'été. » Je vais vous lire la version un peu plus simple de « Parole de vie ». Avant, je ne reconnaissais pas mes torts. Je me plaignais toute la journée et mes forces s'en allaient. Nuit et jour, ta main pesait sur moi et j'étais comme une plante brûlée par le soleil. Tant que David essaie de oublier sa faute, ne pas reconnaître sa faute, il dit « La main de Dieu pesait sur lui. » Et il se plaint toute la journée, il ne peut pas faire comme si rien s'est passé. En fait, dans son cœur, c'est pareil pour nous, chacun de nous, il y a un tribunal. Et la conscience, c'est sa conscience morale qui est en train de l'accuser. Cette conscience morale vient de Dieu. C'est cela qui nous distingue des animaux. la conscience morale que Dieu a mis en nous, ça permet à chaque tout homme de savoir, avoir la notion de ce qui est bien et de ce qui est mal. Même les enfants, ils en ont. Alors, la conscience morale de David l'accuse. Elle ne laisse pas tranquille. Elle lui rappelle, t'as fait quelque chose de pas bien. Je te laisse pas tranquille tant que tu n'avoues pas. Voilà. Donc, vraiment, il est comme une plante brûlée par le soleil. C'est presque, en tout cas, il n'est pas en paix ni avec Dieu, ni avec lui-même. Voilà ce que se sent David. Tant qu'il taise, quand il ne veut pas avouer son péché. Victor Hugo a écrit un récit concernant Caïn. Vous connaissez un peu le meurtre de Caïn sur Abel. Victor Hugo, il a imaginé la scène. Il disait que quand Caïn est chassé loin de la face de Dieu, il a fait sa vie, il s'est marié, il a fait les enfants, les petits-enfants, il a construit les tours, les maisons, mais il a l'impression que l'œil de Dieu est toujours sur lui, en train de l'observer. Nuit et jour, il n'arrive pas à s'en passer, échapper à cet œil qui le regarde. Vraiment, il n'est pas tranquille. Jusqu'à ce qu'arrive à un point, il a demandé à ses enfants, ses petits-enfants, de lui creuser une pièce souterraine, presque une tombe, et le mettre dedans. Il pense pouvoir échapper à l'œil de Dieu. Bon, ses enfants, ses petits-enfants, ils ont creusé, ils l'ont mis dedans, ils ont tout fermé. Ils se sont dit, ouf, on est tranquille avec ce père, ce grand-père qui n'arrête pas nous parler de cet œil, qui le regarde. Mais voilà, Victor Hugo écrit, maintenant que Caïn, il est tout seul dans la tombe, dans cette pièce, qu'est-ce qui se passe? L'œil de Dieu est toujours sur lui. Donc, il n'échappe pas à cette conscience morale qui lui rappelle, tu as tué ton frère. Là, c'est Victor Hugo hein, qui a écrit cette pièce. Voilà. Et il y a un psychiatre juif qui pense que vraiment certaines maladies de désordre psychiatrique, ça vient de cette conscience morale que les gens essayent de refouler, de anesthésier. Et lui, en fait, pour amener à la guérison ces personnes, il leur fait découvrir de revenir la conscience morale. Je pense que nous qui sommes nés de nouveau et nous avons l'Esprit Saint qui est en nous, j'imagine que on a dû quand même vécu cette expérience. Moi, depuis que je suis chrétien, je remercie le Seigneur à chaque fois, souvent quand je fais une faute. On peut dire quelques minutes après, je me suis rendu compte. Et des fois, j'essaie de dire au Seigneur, c'est pas grave. Mais un peu comme David, ma conscience, le Saint-Esprit qui me dit, t'as fait quelque chose de pas correct vis-à-vis de Dieu, voilà, donc je finis par ce que fait David. Est-ce que vous avez aussi vécu cela? Voilà, j'ai du mal à avancer. On la voit le deuxième, comment David se sent après la conversion. Alors, donc David, il n'en peut plus. Hein. Je ne sais pas combien de temps qu'il est resté à nier son péché, puisque dans le psaume, il ne nous a pas dit. Mais il a fini par se rendre à Dieu, à la conscience morale. Il n'arrive plus à supporter la main de Dieu qui pèse sur lui. Il a dit dans le psaume Voilà, non, ça c'est la conséquence. D'abord, sur le verset 5, il reconnaît son péché, il avoue ses fautes, il reconnaît qu'il a péché devant Dieu. Et le résultat est immédiat. Verset... Ouais, vous voyez, heureux l'homme dont la faute est effacée et le péché pardonné. Heureux l'homme au compte de qui l'Éternel ne porte pas le péché et qui est exempt de duplicité. Là, c'est la version Summer. Moi, je l'ai choisi exprès parce que la faute est effacée. Ça me fait vraiment penser à l'apôtre Paul qui a dit dans Colossiens. Je vais vous lire tout à l'heure. Et là, pourquoi David est heureux? Plusieurs choses. Puisque la main de Dieu qui pèse lourdement sur lui, il a dit après, Dieu l'a pardonné. C'est immédiat. Dès qu'il reconnaît sa faute, Dieu est fidèle et juste. Jean nous a dit dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, si nous reconnaissons nos péchés, lui il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute faute. Voilà, Dieu est juste. Il ne peut pas laisser le coupable innocent. Dès que le pécheur reconnaît sa faute, Dieu pardonne. Alors, c'est pour ça que David, il a mis sur le premier verset « heureux ». Mais il a passé par tous ces détails. Alors, pourquoi « heureux » ? J'arrive pas à avancer. Oui. Parce que il est en paix avec Dieu et il est en paix avec lui-même. Le tribunal qui est dans son cœur, lui, le laisse tranquille. Là, il a dit dans le verset 5, son esprit est en repos. Après, c'est l'amour. C'est dans le verset 10. Il a dit que tous les fidèles retrouvent l'amour de Dieu. Et la joie, comme il a eu la paix, il a... de nous goûter à l'amour de Dieu, il ne peut que sauter de joie. Voilà, vous voyez, c'est franchement le fait de nier le péché, dire que Seigneur, c'est pas grave ce que je fais, et avouer, dire au Seigneur, j'ai péché contre toi, le résultat, c'est deux choses différentes. Vous voyez, avant, il était comme une herbe qui est en train de mourir. Je suppose, s'il ne s'est pas repenti, il va tomber dans la dépression. C'est pour ça que je vous ai dit que le psychiatre, il pense vraiment que certaines dépressions sont dues à cette raison. Voilà, donc vraiment, et c'est pour ça, David, il a vraiment goûté au pardon de Dieu. Je pense que oui, vous et moi, nous avons aussi goûté au pardon de Dieu à travers l'œuvre sacrificielle que Jésus a fait à la croix. Nous, au départ, moi et vous, nous sommes condamnés à mort. Nous sommes tous pécheurs. La Bible dit que nous sommes pécheurs. Le fait de ne pas reconnaître Dieu comme créateur, c'est ça déjà, de ne pas lui rendre gloire à Dieu, ne pas rendre gloire à Dieu, la gloire qu'il lui doit, mais plutôt rendre la gloire aux hommes, ça c'est déjà le péché aux yeux de Dieu. Donc Jésus, Dieu à la place nous voit mourir loin de lui, séparer éternellement avec lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a envoyé son fils comme Michael a dit tout à l'heure. Il a quitté son trône de gloire. Il est descendu sur la terre, devenir comme les pécheurs minables comme nous, pour nous sauver. L'apôtre Pierre a dit, À la croix, il a pris nos péchés dans son corps. Et pour mourir à la croix, que le péché meure avec lui, et comme il ne mérite pas la mort, il est ressuscité au troisième jour, il est monté au ciel auprès du Père, donc Jésus-Christ est venu mourir pour toi et pour moi, prendre nos péchés sur lui, il a reçu le jugement de Dieu sur lui, pas seulement le jugement, il a aussi reçu l'ascension et le châtiment. Et grâce à la mort de Jésus, nous avons vraiment, nous pouvons repentir et être réconciliés avec Dieu. C'est pour cela que l'apôtre Paul l'a dit. Colossiens chapitre 2, versets 13 à 15. Et vous, on va dire nous, et nous qui étions morts à cause de nos fautes et parce que nous étions incirconcis, c'est non-juif. Dieu nous a donné la vie avec Christ. Il nous a pardonné toutes nos fautes, car il a annulé l'acte qui établissait nos manquements à l'égard des commandements. Il a effacé le clouant à la croix. Dans une autre version, c'était « il a annulé, il a... » Oui, donc vous voyez, c'est vraiment à la croix que Dieu, par l'œuvre de, en regardant sur son Fils qui est mort, qui a pleinement satisfait la justice que demande l'exigence de la justice de Dieu, voilà, nous avons vraiment reçu le pardon de Dieu. Pas seulement effacé, mais annulé. C'est que c'est rien. Satan ne peut plus nous accuser devant le Seigneur. Satan est notre accusateur. N'oublie pas, il nous accuse jour et nuit devant le Seigneur. Vous avez dans la Bible l'exemple de Job et du grand prêtre Josué. Mais nous avons un médiateur, un avocat, qui plaide en notre faveur, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, vous voyez, le pardon que nous recevons de Dieu, ça nous donne vraiment crier de joie. Et c'est pour cela que David invite toutes les personnes qui connaissent Dieu dans la version de Summer, il dit, c'est les fidèles de Dieu à chaque fois qu'ils reconnaissent. Ouais, ça c'est 1 Jean 1, verset 9. David, dans le verset 9, il exhorte toutes les personnes, les fidèles de Dieu, qui connaissent à chaque fois qu'ils se rendent compte qu'ils ont fauté, qu'ils ont péché, qu'ils viennent, qu'ils ont toujours l'occasion vraiment de venir auprès de Dieu, lui demander pardon et le pardon sera accordé. Et là, c'est pareil pour nous. C'est ce que l'apôtre Jean nous le rappelle. Ça ne sert à rien de nier notre péché ou dire que ce n'est pas grave parce que Dieu, il est juste. Non, il ne peut pas laisser le péché, le coupable innocent. Il n'y a pas de grand et petit péché. Avant que je sois convertie, je pense que les travaux au noir, je pense que la plus que je connaissais, ça coûte moins cher, il n'y a pas de TVA. Et moi, une fois que je suis convertie, je me suis posé la question, est-ce que je vais prendre les gens non déclarés, travailler au noir? Au départ, je trouve que j'ai demandé à un frère. Il m'a répondu, peut-être que tu peux, parce que l'argent que tu gagnes, tu donnes à l'église. Mais je me suis dit, c'est un peu, ça me semble un peu bizarre. C'est vrai, au début, j'ai continué à pratiquer comme ça, pendant quelques fois. Et après, je me suis dit, ça a l'air, je pense que ça doit être ma conscience morale qui m'accuse, qui me dit, ça va pas, cet argent que tu gardes, tu donnes au Seigneur, est-ce que ça plaît au Seigneur? Puisque l'art que tu fais là, c'est pas parce que souvent les gens disent le fisc nous prend trop, bah c'est normal qu'on leur donne pas. Mais là, si j'ai cette pensée-là, je deviens comme les païens, comme les non-chrétiens. Donc à la fin, j'ai dit au Seigneur, je reconnais, j'ai péché, et à partir de quelques années avant, j'ai arrêté de faire cela. Et je remercie le Seigneur parce que mon mari, il est aussi d'accord, alors que il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, mais là, vraiment, il est d'accord. À chaque fois, on fait des travaux, on réclame la facture et on paye en chèque. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment, il y a plein de choses. Et petit à petit, l'Esprit Saint qui est en nous, nous rappelle les fautes. Je vous encourage à chaque fois que l'Esprit Saint nous rappelle de nous dire que attention, ce que tu fais n'est pas ne plaît pas à Dieu, n'est pas selon la volonté de Dieu. Écoute la correction du Saint-Esprit. La Bible nous dit Dieu nous corrige parce qu'il nous aime, parce qu'il nous considère comme ses propres enfants, comme les parents. Il y a des frères et sœurs qui sont parents. Si les enfants tout petits ils font des bêtises, si on les reprend pas, plus tard, ils risquent de devenir des délinquants. Et ça, je peux vous dire, je l'expérimente tout cela maintenant dans mon travail. Je travaille dans l'éducation nationale et je vois les enfants tout petits, à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui sont violents. Souvent, c'est parce que il n'y a pas d'encadrement à la maison. Les parents les laissent tout faire. Les parents me disent, ils n'arrivent pas à le contrôler. Quand il est en crise, il casse tout. Et les parents le laissent dans une chambre et c'est tout. Voilà. Donc, vous voyez, c'est vraiment, Dieu nous encadre par le Saint-Esprit. Ou, on peut dire, la conscience morale. Donc, vraiment, laissons-nous vraiment corriger par le Seigneur. C'est toujours pour notre bien. Alors, nous avons vu que David a péché, il s'est rendu compte qu'il a péché, il a voulu rester négligé, mais il souffre. Il a décidé de se repentir. Là, il a vraiment connu la joie avec Dieu. Maintenant, nous allons voir ce chapitre-là, le pardon entre les hommes. Je pense que c'est assez chaud comme chapitre. Donc, je ne vise personne. Je veux juste ici parler un peu selon ce que j'ai vu à travers la Bible. Et les cours que j'ai suivis en relation aide, donnés par les chrétiens, par le pasteur Gérard Poujol et d'autres. Alors, il y a trois situations qui peuvent se produire. J'imagine chacun de nous dans notre vie. Nous avons dû, par notre maladresse ou notre caractère, blesser quelqu'un par l'acte ou par la parole, ou bien être blessé par d'autres. Je pense que chacun de nous a dû vivre cela. Et quelle est notre réaction? Comment nous allons nous conduire en tant que chrétiens? Il y a trois situations qui peuvent se présenter. Premièrement, l'offenseur, celui qui nous offense, reconnaît sa faute et se repent. Deuxièmement, l'offenseur n'est pas conscient de sa faute. Troisièmement, l'offenseur ne reconnaît pas sa faute. Nous allons voir D'abord, je n'arrive pas à avancer. Alors, quand l'offenseur reconnaît sa faute et se repent, la Bible nous dit, c'est ce que Jésus a dit, si ton frère s'est rendu coupable d'une faute, reprends-le. Et s'il change d'attitude, changer d'attitude, c'est se repentir. Pardonne-lui. Et même s'il se rend coupable à ton égard, cette fois, au cours de la même journée, et que cette fois, il vienne te trouver en disant qu'il change d'attitude, pardonne-le. Voilà, c'est ce que le Seigneur nous enseigne. Même si il m'offense 7 fois de suite, mais à chaque fois, il revient me demander pardon, le Seigneur dit, je dois le pardonner. Donc, pour ce cas de figure, il n'y a pas de... C'est clair, évident pour chacun. Est-ce que quelqu'un a vécu cela? Je pense que chacun de nous a quand même vécu cela. Dans notre vie, de plus qu'on est âgé, plus on connaît des choses. Si on fait des choses. T'es d'accord, Anne-Marie? Mais vous, les jeunes, je pense que vous avez dû aussi passer par tout ça. Parce que la vie, la société d'aujourd'hui, les gens sont très agressifs, même en voiture. Quand on roule à 50 à l'heure, quand on suit la... Quand on respecte le code, il y a des nerveux qui klaxonnent et qui nous collent tout près. Hein. Donc, alors, on va voir le deuxième cas. Quand l'offenseur n'est pas conscient de sa faute, c'est-à-dire que la personne qui nous offense, il ne se rend pas compte du mal qu'il nous a fait. Alors, là, c'est pareil. Jésus nous dit, si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. Si t'écoutes, tu auras gagné ton frère. Donc ici, le Seigneur nous invite d'aller voir la personne qui nous a offensé discrètement. Ne pas crier sur le toit à tout le monde, ouais, il m'a offensé, il m'a fait du mal, il m'a dit. Non, c'est discrètement. Et vraiment, qu'avec lui, on peut lui dire, voilà ce qui s'est passé, ce que tu m'as fait, ce que j'ai ressenti, et ce que cela a fait dans ma vie. J'étais blessée, j'étais choquée, j'étais pas bien, par exemple. Est-ce que j'attends de toi aujourd'hui? Voilà. Donc ici, Seigneur dit, convainc-le de sa faute. Et s'il t'écoute, ça veut dire qu'il reconnaît son péché, tu auras gagné ton frère. Donc ça veut dire, le Seigneur nous invite aussi de le pardonner. Ça revient au cas première. Il n'est pas conscient de son mal, mais une fois tu l'as expliqué, tu l'as exposé, il reconnaît. Dans ce cas-là, c'est pareil. Comme nous avons prié dans le Père, la prière du Père, pardonne-nous nos offenses, comme nous avons pardonné aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc là, le Seigneur nous demande de le pardonner. C'est le Seigneur, hein, c'est pas moi. Donc c'est la Bible, c'est Jésus qui l'a dit. Voilà. Ensuite, c'est le troisième cas de figure qui est un peu compliqué. C'est Denis qui va m'aider. Alors, troisième cas de figure. L'offenseur ne reconnaît pas sa faute. Alors, ici, la Bible nous dit, s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute l'affaire se règle sur les déclarations de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dis-le à l'Église. S'ils refusent aussi d'écouter l'Église, considère-le comme un païen, un collecteur d'impôts. Bon. Ça veut dire que ne le considère plus comme un frère ou une sœur en Christ. Alors, ici, Jésus ne nous a pas dit est-ce qu'on doit le pardonner ? N'est-ce pas ? Alors, donc, quelle est notre position ? Vous savez, avant de prêcher, j'ai hésité plusieurs fois. Je me suis dit, Seigneur, est-ce que je vais parler du pardon ? Je ne suis pas trop bien placée. Et bon, après la prière, je pense que... Alors, il y a deux positions. Il y a... C'est les personnes qui ont dit il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de repentance. Je vous donne leur position, leur plaidoirie, on dit ça. Alors, mais c'est vrai que, ouais. Là, Ésaïe, dans 26, il dit, fais ton grâce aux méchants, il n'apprend jamais à être juste. Même au pays du droit, il commettra le mal. Il ne verra pas la majesté de l'Éternel. Alors, les partisans de cette position, il y a Augustin, il y a John Stott, c'est les hommes chrétiens assez connus. Ils disent que c'est seulement, parce que c'est vrai, nous avons vu avec David tout à l'heure, tant que David se taise, tant que David ne reconnaît pas sa faute, Dieu, la main pèse sur lui. Et c'est quand il a reconnu sa faute, quand il a demandé pardon à Dieu, que Dieu l'a pardonné. Donc, ces personnes, aussi Gérard Poujol, qui est le professeur de relations aides, il dit que c'est seulement quand nous nous repentons que Dieu pardonne. Et j'ai regardé dans l'Ancien Testament, j'ai trouvé dans Ézéchiel 18, Dieu dit souvent, plusieurs versets, il dit « Je ne prends pas plaisir de voir les méchants meurent. Je veux qu'ils changent d'attitude, donc se repentent et revenir vers moi pour vivre. » Donc, là-dessus, Dieu l'a dit quand même, il pardonne que quand on se repent. Donc, si l'offenseur ne repent pas, on n'a pas à le pardonner. Et c'est vrai que, alors, Gérard Poujol, ils disent que si on pardonne aux coupables, si on pardonne aux coupables, ça lui donne l'impression qu'il peut continuer à faire le mal, à blesser les autres, sans jamais s'inquiéter qu'il est dans le tort. Je vous expose les deux positions. Vous prenez, parce qu'il n'y a pas vraiment de consensus là-dessus. Alors, dans ce cas-là, pas de pardon sans repentance. Non, ça veut dire que la personne qui est offensée, il peut ne pas pardonner. Et là, je vais partager avec vous ce que dit Gérard Poujol. En fait, quand on est blessé, quand on ressent une offense, c'est quoi la réaction qu'on ressent? Premièrement, c'est la colère. Ensuite, c'est la tristesse. Vous êtes d'accord? Quand quelqu'un te blesse, T'es en colère ou t'es content? On est en colère. Tristesse. Et c'est la colère, cette colère qu'on doit bien gérer. Alors, donc, en fait, dans la relation aide, ils disent que on va illustrer comme ça. La personne qui est offensée, il a reçu un dossier de l'offenseur, un dossier, la blessure. Il est entre ses mains. Si l'autre reconnaît sa faute, bah, je lui redonne le dossier, je suis tranquille, je le pardonne. Mais là, celui qui m'offense, il ne veut pas reconnaître que c'est lui, l'auteur du dossier, il ne veut pas reprendre le dossier. Donc moi, le dossier reste sur moi. Si je garde le dossier, je reste toujours blessée, toujours ma blessure et n'est jamais fermée. Alors, les personnes de relation aide, ils conseillent que nous, moi qui ai ce dossier, je le donne à Dieu. C'est Dieu qui réceptionne mon dossier. Comme ça, moi qui suis offensée ou la personne qui suis offensée est libérée du dossier. Donc, je suis libérée de ma colère, de ma haine, tout ça. Par contre, celui qui a offensé, il n'est pas libre. Il est toujours, puisque lui, il devra rendre compte à Dieu le jour qu'il voit la face de Dieu. Voilà ce qu'ils disent, et ça, ils appellent ça lâcher prise. Ce geste, cette démarche. Mais c'est vrai que chacun de nous a des vécus différents, avec tout ce que nous avons vécu, avec les parents, avec en fait plein de choses. Il me semble quand nous avons reçu beaucoup de blessures dans l'enfance, nous aurons quand même du mal à pardonner à la personne qui nous offense. C'est moi qui le dis, hein, là-dessus, voilà. Mais quand on ne pardonne pas, quand la personne est offensée et ne pardonne pas à la personne qui nous offense, ne vous sentez pas coupable. Ne dis pas dans ta tête que je ne suis pas un bon chrétien. C'est pas vrai. Il faut pas que le fait d'être dans la position de victime, on se culpabilise encore. Non, ne te culpabilise pas. C'est normal. Si la personne qui nous offense ne s'excuse pas, on a vraiment, c'est légitime d'être en colère, parfois même d'aller jusqu'à la haine envers la personne. Ça, c'est légitime. C'est notre émotion qui fait ça. Mais si tu te reconnais dans cette situation-là, ne reste pas dedans. Demande l'aide à Dieu et à des personnes qualifiées professionnellement pour t'aider à sortir de cette impasse, pour trouver vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment lâcher le dossier, quoi, pour que la blessure soit cicatrisée, bien fermée. Il y a une deuxième position, c'est de pardonner. C'est-à-dire, même si... même si l'offenseur ne reconnaît pas sa faute, il y a une autre des partisans qui disent, en tant que chrétien, on doit pardonner. Il base sur l'amour de Dieu, sur vraiment Jésus est mort pour nous, tout ça, c'est pour le dire. Là-dessus, je peux pas vous dire trop de choses. Alors, j'ai simplement un exemple concret à vous donner. La missionnaire Fanny m'a raconté qu'à Taïwan, Cette année, je sais plus quel mois, il y a une petite fillette de 4 ans. Elle s'est fait assassiner par un homme déséquilibré. Elle a reçu 23 coups de couteau. Elle est morte. Donc, l'assassin est en prison. Et les parents de cette fillette, qui sont chrétiens, ils sont allés voir cet assassin et lui a dit, nous sommes chrétiens, notre fille est morte, mais nous te pardonnons parce que nous avons reçu l'amour du Christ. Ça, c'est un exemple concret. Donc, j'ai lu il y a longtemps, Anne-Marie, tu connais peut-être, il y a 4 jeunes missionnaires américains qui sont partis dans une peuplade, dans une ethnie lointaine pour prêcher l'évangile. Ils ont été tous tués par le peuple là-bas. Ensuite, quelques années après, les 4 veuves, elles sont retournées évangéliser dans cet village. Ça veut dire que Amazon, merci. Ouais. Donc, les veuves qui ont perdu leur mari, pasteur ou missionnaire, elles ont choisi de pardonner à ce peuple. Et là, suite à leur arrivée, il y a eu beaucoup de conversions. Voilà, c'est pour cela que je vous dis, c'est une patate chaude. Quand l'offensé ne reconnaît pas la faute, je ne sais pas comment vous conseiller. Simplement, il y a deux positions. Donc, mais surtout, ne pas culpabiliser si on n'arrive pas à pardonner. C'est normal. Puisque le Seigneur dit quand même que sans repentance, il n'y a pas de pardon. Donc, c'est un peu là-dedans, c'est vraiment, je ne sais pas. J'ai demandé à certains pasteurs, ils sont de cette position-là, l'autre, c'est l'autre position. Donc, vraiment, laissez-vous... Mais si quelqu'un parmi vous est a vécu cela, que tu as été offensé par quelqu'un et la personne ne s'est pas repentie, ne reste pas dans l'impasse, ne reste pas avec le dossier sur toi. Cherche de l'aide. Priez, demandez au Seigneur. Et en même temps, maintenant, il y a beaucoup de professionnels qualifiés qui peuvent nous aider à sortir de cette impasse. Je suis assez d'accord pour le lâcher prise. Je pense surtout à des crimes vraiment importants. Par exemple, le viol, l'inceste, abus sexuels, abus, toutes sortes d'abus, quoi. Mais ça dépend aussi de chacun. Parce que, en fait, si vous voulez, ça, c'est la psychologie. C'est pas théologie. En fait, ça dépend ce qu'on avait vécu dans notre enfance. Souvent, quand on a la colère, c'est déjà la colère qu'on a vécu dans l'enfance. Et l'offense qu'on a reçue, c'est comme un autre coup de couteau qui vient remuer cette plaie, quoi. C'est pour ça, il y a certaines personnes qui arrivent plus facilement, je vais dire. Je pèse mes mots parce que voilà. Donc, pardonner ou pas, c'est quand même bien de lâcher prise. Voilà, donc, oui. 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 Tu peux y penser, mais quand tu repenses, ça veut dire que ça ne doit plus te faire mal, quoi. Tu vois? Tu peux ne pas le voir. Ça, c'est pas obligé. Tu peux lui dire bonjour, mais froidement. Froidement, si tu veux, mais... C'est d'être soulagé, toi. Parce que tant que tu gardes la rancune ou la haine ou la blessure en toi, t'as toujours mal, mais l'autre, il se rend pas compte, il m'aime pas, il reconnaît même pas. Tu vois? En fait, souvent dans ce cas-là, les gens, ils vont voir un professionnel. Les conseillers de relations aide ou d'autres, parce que les conseillers de relations aide, ils sont d'abord chrétiens. Et ce sont les professionnels chrétiens qui aident les chrétiens ou les non-chrétiens de sortir des souffrances. Souvent, des fois, on a besoin de ça. Parce que ça dépend beaucoup. Parce que si on a un vécu, un arrière-plan assez équilibré, assez sain, je pense qu'il y a moins de problèmes. C'est les gens qui ont déjà souffert dans leur enfance, qui ont eu des parents qui l'ont maltraité ou qui ont des carences psycho-affectives. Moi, je le vois, j'ai été amenée à observer un garçon qui a 10 ans, qui est arrivé du Cambodge. Il parlait pas un mot français. On l'a mis dans, comme il a 10 ans, il est dans la classe du CM1. Bien sûr, il comprend pas ce que la maîtresse dit. Il était dans son coin. Et puis, mais la maîtresse m'a dit, il a des comportements un peu impulsifs, il fait un peu violent. Et il n'a pas de contact avec les autres personnes. Et heureusement pour moi, en fait, son papa, c'était un ancien malade à moi, je l'ai vu. Il a refait sa vie. Bon, il a eu son enfant avec une jeune maman, là. Mais en fait, il a été laissé par sa mère. Il est gardé. Le papa m'a dit. Il a été élevé, gardé par la nourrice cambodgienne à la maison. Et sa mère, elle sortait tous les jours. Elle s'occupait pas de ce gamin. Et il était comme ça. Et dans la journée, personne ne lui parlait. Même la nourrice ne lui parlait pas. Du coup, il a commencé à parler à l'âge de 6 ans. Et là, il est arrivé en France à 10 ans. Et là, pour moi, c'est une souffrance psycho-affective très grave. Sa maman l'a seulement fait. Et après, c'est un parquet, c'est la nourrice qui s'occupe. Et la nourrice, elle est payée. Bah, elle lui donne à manger, à boire, mais personne ne lui parle. Mais son père, il est enfant, il est allé le voir deux fois un mois, donc vous voyez. Cet enfant-là, je veux dire, plus tard, s'il reçoit quelque chose, des offenses, il aura du mal à... Là, il a vraiment un vécu qui est assez traumatisant, quoi. Donc, c'est vraiment inégal. Donc, je peux pas dire, mais jamais, parce que des fois, j'ai connu peut-être, je ne sais pas, peut-être des chrétiens qui disent à l'autre, ouais, tu devrais pardonner, t'es chrétien, sinon t'es pas un bon chrétien. Je pense que non. Si l'offenseur ne reconnaît pas la faute, ne l'oblige pas l'autre à pardonner, on ne sait pas ce qu'il vit. Chacun est différent. Certains sont plus sensibles, d'autres non. Donc, vraiment, devant ça. Mais si tu lâches prise, tu laisses Dieu faire la justice. C'est ce que Paul dit dans Romains 12, verset 9, il semble, ne vous vengez pas vous-même. Laissez Dieu venger. Dieu l'a dit, je suis la vengeance à moi, je rendrai à chacun ce qu'il mérite. Avoir l'idée, ça quoi. Même si la personne nous fait beaucoup de mal, je pense que c'est dans ce sens-là que Paul nous dit souvent, ne pas rendre le mal par le mal. Soyez vainqueurs du mal par le bien. J'ai réfléchi souvent à ce verset, je vous demande de réfléchir, parce que Jésus nous a dit de donner à manger à nos ennemis, donner à boire à nos ennemis. Comme ça, c'est comme si tu amasses un charbon ardent sur ta tête. Et j'ai lu dans le contexte, en fait, si vous voulez, j'ai compris un peu plus. À l'époque, en Égypte, quand un prisonnier, quand quelqu'un reconnaît sa faute, il met des charbons ardents dans un récipient, il met sur sa tête, publiquement. En fait, ça veut dire, il veut montrer, il reconnaît sa faute. Donc, là, j'avais compris comme ça que même si, mais là, tu vois, le Seigneur ne nous dit pas de l'aimer la personne, mais s'il a besoin, tu donnes à manger, tu donnes à boire. C'est comme je t'ai dit, si tu vois la personne, tu lui dis bonjour quand même. Et mais par ta conduite, ça arrive qu'il s'est rendu compte de sa faute et par la suite, il va venir vers toi pour se repentir. J'ai compris comme ça ce verset. Puisque tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire, après c'est bon, le charbon ardent, c'est-à-dire que tu lui fais honte de ce qu'il fait envers toi. Et voilà quoi, c'est vraiment... J'ai pensé aux misérables. Hein? Jean Valjean qui a volé les coupes de l'évêque. Et quand il est revenu voir l'évêque a dit non. Je lui ai offert, il lui a donné encore une autre coupe. Et c'est vrai que Jean Valjean n'a pas dit il a volé, mais voilà, il a pas. Mais après, il s'est repenti. Du coup, il a aidé plein de personnes. Bon, mais tu me diras là, c'est une question de vol, c'est petit, mais les blessures, ça dépend vraiment de la personne, de la personne. Oui. Oui. Dans chaque cas ici, je traite, c'est que on va voir si je suis blessée par un tel, je vais aller le voir. Il faut pas lui en vouloir, alors lui en parle pas. Si on reste là sans lui dire, il peut pas deviner notre réaction. Tout ce que je vous conseille à chacun de nous, quand quelqu'un nous blesse, soit par acte, soit par parole, des fois c'est involontaire aussi, des fois. Mais si, par exemple, je prends moi, si, quand je me sens blessée, je vais aller voir la personne qui m'a blessée, tête à tête, lui dire ce que tu m'as dit, ce que j'ai entendu de toi, ce que tout ça, et ce que, lui dire que ça m'a fait beaucoup de peine, ça m'a beaucoup blessée, est-ce que j'attends de toi? Et c'est à ce moment-là, s'il se repent, on est dans la deuxième carte de Dieu, je le pardonne. Mais quand il dit, bah non, il y a des personnes qui sont capables de dire, ah, j'ai jamais dit ça, j'ai jamais fait ça, c'est toi qui es trop sensible, je sais pas quoi. Bon, bref, c'est toi qui as mal interprété, mal entendu. Bon, bref, il reconnaît pas. Et dans ce cas-là, bah, c'est à toi de, parce que, mais toi, t'as reçu, moi, j'ai reçu mon, j'ai eu le couteau, hein. Donc, lâcher prise, c'est être pour ça, pour, j'ai la colère envers lui. Peut-être jusqu'à la haine. Voilà, donc, lâcher prise, c'est la personne qui est offensée de ne plus être empoisonnée par ça. Mais pas l'offenser. Lui, il rendra son compte à Dieu. Tu vois? Oui. Voilà. Oui.
Si j'ai bien compris, alors lâcher prise, ça veut dire, ça ne veut pas dire que tu n'as pas pardonné. Tu as juste, tu essaies de...
Non, là, ils sont dans la position, ils ne pardonnent pas, mais seulement ils donnent le dossier à Dieu. Oui, qu'ils nous ont offensés, mais la suite, il ne nous dit pas s'ils ont reconnu la faute ou pas, tu vois. Non. Dans les premières cas, je t'ai... Oui.
Oui.
C'est pour ça, je te dis, les partisans de la deuxième position, ils prennent ça. Quand les autres, ils disent que tu peux prendre pareil, comme David, quand il s'est pas repenti, Dieu l'a pas pardonné. D'abord, tu attends ça aussi. Donc, du coup, c'est pour ça, je vous dis. C'est vraiment, vous avez besoin de, oui. D'accord. Voilà. Donc, alors, pour, si le thème que je traite, je sais que c'est une petite partie, et si ça vous touche, ça vous intéresse, Amine, on peut le faire pas sur la prédication, mais sur un enseignement. Ou bien, si vous avez vraiment besoin de l'aide, je vous invite de venir me voir et j'ai prié avec vous. Et voilà, on en parle ensemble. Ne reste pas dans ta blessure. Ne reste pas dans l'impasse. Prions ensemble. Abba Père bien-aimé, merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ton pardon. À chaque fois, nous reconnaissons nos fautes, tu nous pardonnes. Mais Père, ce que nous, le cas de figure que nous traitons cet après-midi, Seigneur, nous avons vraiment besoin de ton éclairage, Seigneur. Que vraiment, je te remets toutes les personnes qui ont été blessées par une autre personne qui ne se reconnaît pas, Seigneur, comment tu aides toutes ces personnes à trouver une issue, Seigneur, avec ton aide, avec ton aide et puis avec ton éclairage, avec ton amour, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.